ensemble. Je pensais tout à l'heure avec les commentaires que faisait le frère Guy, je lisais Tozer la semaine dernière et il soulignait l'importance des cantiques, surtout les cantiques du genre de la foi ou autres, des cantiques qui ont un contenu riche. Parce qu'il disait, après la Bible, ce sont les cantiques qui nous rappellent les doctrines bibliques. Et quand on enseigne la parole, on est obligé de prendre un passage et on le développe. Mais quand on chante les cantiques, il y a tellement de doctrines qui nous sont rappelées. Et ça fait partie de l'enseignement. C'est une manière de fixer ces pensées que des personnes qui ont pu composer des cantiques, des poèmes, qui le disaient. Et nous pouvons le fixer dans nos esprits grâce à ces cantiques. Et combien de fois, dans les moments difficiles, eh bien, est-ce qu'il y a un cantique qui nous vient à l'esprit, qui nous rappelle des vérités concernant le Seigneur. Et donc, c'est important. Et de nos jours, eh bien, il y a une tendance vers des cantiques qui font plus plaisir à la personne que de rappeler des vérités, de nous rappeler des vérités. Et on a des... Et donc, faisons attention, parce que c'est utile, c'est nécessaire, même les cantiques qu'on enseigne à nos enfants, que ce soit des vers, des cantiques, des petits chants, mais avec un contenu. Hein, c'est un frère d'ici, Fréjus, qui, quand il avait 20 ans, il était au bout du rouleau, il s'est souvenu d'un petit chant qu'il avait appris dans les classes d'enfants à la Gabelle, attaché à la croix pour moi. Et en se souvenant de ces paroles, eh bien, il s'est plié devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et sa vie est changée. C'est lui qui me l'a raconté. Mais c'était quelque chose qu'il avait entendu, petit gamin, alors qu'il allait aux classes, certainement plus pour les gâteaux que pour l'enseignement. Mais voilà. Mais le petit cantique a fixé une vérité qui était là au moment voulu. Et donc... voilà, j'ai fait ma petite pub là maintenant, comme YouTube, ça commence avec une publicité, puis après il y a le contenu. Donc on va ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, et nous allons continuer notre lecture là. Donc nous sommes dans ce chapitre là, et nous allons quand même relire ces versets, les versets 9 à 16. Donc, nous avons vu que déjà des versets 9 à 13, c'était des exhortations concernant nos relations au sein du corps de Christ. Et là, à partir du verset 14, eh bien, ce sera dans le corps et en dehors, avec les gens qui sont en dehors. Mais je lis au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, réjouissez-vous avec, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui, et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Donc les versets 14 et 15 vont attirer notre attention ce matin. C'est là nous allons voir des valeurs finalement qui surpassent même celles de nos cultures. Hein, même les points les plus forts de nos cultures, notre culture, eh bien là, c'est des valeurs qui vont au-delà de cela. Hein, le chrétien ne se contente pas d'être le meilleur parmi les hommes, mais d'être à l'image de Jésus-Christ. Hein, c'est ça que c'est lui notre modèle. Et donc il nous dit bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Commencez par bénir ceux qui persécutent. Bien sûr, vous savez, pour ceux qui croient, qui veulent nous dire que la Bible, ça a été inventé par les hommes, eh bien, si ça avait été inventé par les hommes, ce verset ne serait jamais là. Hein? Déjà, là. Hein? Ça. Donc, mais il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Jésus reprend, en fait, Jésus est à l'origine de cette pensée. Hein? Presque, on a l'impression que Paul cite Jésus dans un verset du Sermon sur la montagne. Et Jésus, dans Luc chapitre 6, versets 27 et 28, il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ça, c'est... Il y a de quoi. Hein. Et certainement, il y a de quoi faire des progrès. Hein. Tant qu'on ne rencontre pas des gens qui nous embêtent, c'est très facile. Mais... il y a quand même, hein, c'est, la réalité c'est que à notre époque, c'est une des, l'Église, les chrétiens sont les plus persécutés du monde. Et peut-être en France, c'est pas de manière physique en tous les cas, mais beaucoup de pays du monde maintenant, les chrétiens, il y en a qui meurent tous les jours, parce qu'ils sont chrétiens. Hein, donc, et peut-être qu'un jour, nous nous trouverons dans cette situation. Mais l'exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, et bon, mettez-vous à la, du point de vue historique, là, au 1er siècle, Rome, vous avez certainement parlé de Néron, hein, c'est lui l'empereur, et vous connaissez son comportement, ses attitudes, vous avez vu soit des films, ou bien c'est, vous êtes un passionné de l'histoire, mais ce n'était pas évident d'aimer et de bénir celui qui persécute. Hein. C'est quand même Néron qui s'est servi de chrétien, qui les a attachés des poteaux, qui les a immolés pour éclairer son parc. Hein, c'était cette cruauté-là. Hein, et les chrétiens sont à l'époque. C'est lui qui a mis le feu, pour détourner l'attention, c'est lui qui a mis le feu à toute une partie de Rome, et il a brûlé Rome, et puis il a dit « brûle, brûle ». Et bien sûr, c'était pour lui, c'était pour purifier la ville, mais c'est à ces chrétiens-là que Paul dit de bénir ceux qui vous persécutent. Et le mot bénir là, hein, si je vais dire parler du grec, pas parce que je connais le grec, mais je sais lire les dictionnaires. Hein. Et donc c'est le mot duquel nous tirons le mot français « éloge ». Hein, en français, on dit « faire des éloges », vous savez ce que ça veut dire. Hein, c'est quand même, c'est pas juste dire merci, hein, c'est plus que cela. Mais le mot, là, « bénir », c'est ce mot-là, hein, duquel nous tirons l'idée de « éloge ». Et quand après, il nous dit, quand Jésus nous dit de « aimer nos ennemis », eh bien, il emploie le même mot qu'on trouve dans Jean 3,16, hein, c'est l'amour de Dieu, aimer de cet amour-là. Et là, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est contre nature. Hein. Et ce n'est pas juste une question de ne rien dire, ou ce n'est pas une question de ne pas répondre en nature, mais c'est carrément de passer au-dessus, à un autre niveau. Hein, c'est celui qui persécute, celui qui maudit, celui qui insulte, celui qui se moque, tout ça, il a un certain niveau. Et nous devons le surpasser et répondre et agir selon ce que nous sommes en Jésus-Christ et non pas selon ce que notre corps, notre chair ancienne nous apprend. Je me souviens des discussions avec... des frères, des amis de certains pays, d'une autre religion, et qui, quand il a entendu ça, il a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, Dieu ne demanderait pas tant que ça. Et oui, non, mais c'est sûr, c'est contre nature. Et si on le fait de par notre nature, on essaie de nous discipliner et de dire quelque chose de bien sur une personne qui nous fait du tort, parce qu'on appartient à Christ, eh bien, il faut qu'il y ait une autre chose qui nous anime. Hein. C'est par ce moyen-là aussi que nous pouvons démontrer que nous sommes animés par autre chose. Bien sûr, la question va venir et j'entends votre pensée même. Il dit, comment est-ce qu'on peut dire du bien d'une personne qui se comporte mal? Comment veux-tu que je fasse des éloges de quelqu'un qui agit mal? C'est quand même mal, non? Et c'est vrai, mais c'est là où je vais profiter pour souligner ce principe de la parole, c'est que on respecte l'homme et on condamne l'acte. Hein, pour dire les choses comme Dieu le dit, Dieu aime le pécheur, mais il condamne le péché, il hait le péché en plus. Hein, et donc, et souvent nos problèmes, hein, même interpersonnels, c'est souvent, on attaque la personne au lieu d'attaquer ce qu'il a fait, l'erreur qu'il a faite. Et lorsqu'on veut la réconciliation entre des personnes, finalement, c'est on peut condamner un acte, mais montrer de l'amour à la personne. Et ça permet une réconciliation dans le couple, dans la famille, parmi les voisins, dans une société. Hein, c'est condamner l'acte et parler en bien de la personne. Parce que même les plus grands voleurs, ils ont l'image de Christ en eux, l'image de Dieu en eux, ils ont cette capacité et il y a des choses à relever. Hein, et nous, en tant que chrétiens, nous devons voir comme Dieu voit. Et Dieu voit dans une personne, il voit un potentiel extraordinaire. Et il dit à la personne, tu sais que je t'aime. Je suis mort sur la croix pour toi. Et en même temps, il dit, mais ce que tu fais, je ne supporte pas. C'est lorsque nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous commençons à avoir cette pensée. Nous voyons les personnes autrement. Et finalement, lorsque la personne se comporte mal, eh bien, tout de suite, on se dit, bon, ce pauvre personne, elle a un potentiel extraordinaire, mais il y a quelque chose qui l'anime, qui la détruit et qui la rend désagréable. Et ça change tout la manière de voir. Et au lieu de condamner toute la personne, hein, la société, elle ne sait pas faire autrement, elle met toute la personne en prison. Ou certains pays, on les condamne à mort. C'est toute la personne. Mais Dieu fait une distinction. Il dit non, les œuvres, c'est une chose, et la personne, c'est autre chose. Et je suis mort sur la croix pour la personne. Et je veux l'aider. Et donc, comment bénir ceux qui nous persécutent? Ils disent, c'est des personnes qui, s'ils connaissaient Christ, ce serait autrement. Hein, l'apôtre Paul, c'était un homme qui avait persécuté. Hein. Lui, je ne sais pas comment il arrive à dire cela, mais il dit, mais moi j'étais un persécuteur. Il le dit, je suis le plus grand des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église. Mais Dieu m'a fait miséricorde, Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé au-delà de ses actes horribles et a vu l'homme et il l'a repêché. Et il a fait de lui un défenseur de l'Évangile. Ce comportement-là, c'est ce qui permettra au monde de constater que l'amour qui nous anime est sans hypocrisie. Hein, on l'avait vu ça au verset 9, que votre amour soit sans hypocrisie, c'est-à-dire que ça soit du vrai. Le monde saura que c'est l'œuvre de Dieu et non le résultat d'une discipline. On arrive à se discipliner et contrôler, et même il y a parfois on fait appel aux arts martiaux pour apprendre à se discipliner, se contrôler, j'ai moins à craindre d'une ceinture noire que d'un voyou dans le trottoir, hein, qui ne sait pas se battre. Mais lui, l'autre, il a appris à se contrôler. Hein, mais on peut apprendre une certaine discipline. Et vous savez, mais bénir celui qui persécute, alors là, c'est plus que de la discipline. Et c'est là où il y a la démonstration d'une œuvre de Dieu. Et le monde voit la différence. On n'a pas besoin de leur expliquer ni faire des dessins. Il le voit, il le constate quand il le voit. Jésus dira, hein, il dira, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Alors il dit, voilà, bah, si tu es gentil avec ceux qui sont gentils, puis c'est normal. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Chez eux, ça existe aussi. Hein? Mais si nous voulons démontrer qu'il y a autre chose chez nous, que nous ne sommes que des récipients d'une grâce extraordinaire qui veut s'exprimer, alors là, il faut faire ce qui est contraire à la nature. Hein? C'est de pouvoir bénir ceux qui nous persécutent et surtout de ne pas les maudire. Sous la provocation, hein, parce que des fois la provocation elle peut être terrible aussi, hein. Et qui est comme si cela n'était pas assez convaincant, Jésus dit sermon sur la montagne, hein, Matthieu 5 verset 44, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Voilà, là, il en demande beaucoup. Et il faut croire que, normalement, on ne fait pas le bien à ceux qui nous maltraitent. Hein, l'envie n'est même pas là. Hein, c'est vraiment contre nature. Mais c'est ça qui prouve la différence. Le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et pour avoir eu des contacts avec des gens qui vivent sous la persécution, eh bien, je les entends. Prier pour les autorités. Prier pour la famille qui les persécute, qui les a jetés dehors. Eh bien, ils prient pour eux. Ils souffrent, mais ils prient. Mais c'est extraordinaire. Et ceux qui persécutent, ils ne savent pas comment faire. Le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais n'est-ce pas ce que Jésus a fait sur la croix ? Alors qu'il est là, devant cette foule qui se moque de lui, hein, il le voit clouer une croix et dit, si tu es le Fils de Dieu, descends, on va croire. C'est eux qui avaient crié à Pilate, qui ne voulait pas le crucifier. Il a dit, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Jésus est là, il les avait entendus, il voit la haine et le plaisir qu'ils ont de le voir cloué. Pour eux, c'est, enfin, on s'est débarrassé de lui. Et Jésus s'adresse dans une prière, dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il a prié pour ceux qui le persécutaient. Pas après